L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, la Belgique. En Belgique, le problème de la surpopulation carcérale et quelques critiques récurrentes sur un manque de courage politique. En France, la hausse des chiffres de la délinquance. On va essayer de comprendre pourquoi dans un instant. Au programme également, des Canadiens de la province de l'Alberta qui se préparent à aller aux urnes la semaine prochaine. Nous irons en République démocratique du Congo où l'ancien président Joseph Kabila a toujours de l'influence. Enfin, la Suisse, avec l'annulation par les juges fédéraux d'un résultat de votation populaire, et c'est une première dans l'histoire de la Confédération. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. En Belgique, Nathalie De Vic, les papis braqueurs, comme on les surnomme dans la presse, les papis braqueurs ont été jugés.
Et c'est retour à la case prison pour ces quatre multi-récidivistes âgés de 52 à 65 ans. Ils ont pris entre 3 et 5 ans pour avoir tenté de braquer une banque l'été dernier. Le fait qu'ils n'en étaient pas à leur premier coup et à leur première condamnation n'a évidemment pas joué en leur faveur, ni leur recours aux armes, violences, prises d'otages, bien loin de l'esprit potage des tontons flingueurs. Une longue carrière dans le grand banditisme, mais voilà que l'heure de la retraite a sonné et la ne sera pas doré.
En France, un procès également. La justice a donné raison à un agriculteur face au géant américain Monsanto. C'était donc un procès historique. La firme américaine a été reconnue coupable des graves troubles neurologiques dont souffre l'agriculteur depuis 15 ans. À cause d'un désherbant, il va recevoir au moins 50 000 euros d'indemnisation. Le désherbant en question n'est interdit en France que depuis 2007, alors qu'il a été retiré du marché au Canada dès 1985 et en Belgique dès 1992. Pour RFI à présent, Charlotte Hydrac, la personnalité de la semaine, eh bien c'est le nouveau président par intérim de l'Algérie.
Oui, Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, nommé par le Parlement après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qui était prévu par la Constitution, mais il est contesté par le mouvement populaire, car Abdelkader Ben Salah, 77 ans, est un pur produit du régime, un homme discret, journaliste dans la presse d'État, puis député, haut fonctionnaire, président de l'Assemblée. C'est un fidèle de l'ancien président. Il a promis une élection transparente. Rendez-vous est fixé le 4 juillet.
En Suisse, la chef du département vaudois du territoire et de l'environnement a contraint le gouvernement cantonal à publier un rectificatif, Pierre Enchauffat.
Et pas fréquent, en effet, qu'il soit nécessaire de préciser les propos tenus devant le Parlement par un membre du collège gouvernemental. Préciser les propos, on appréciera le vocabulaire diplomatique utilisé pour effacer la véritable confusion provoquée par Jacqueline de Quattro, qui plus est sur un sujet sensible, le déploiement controversé de la technologie 5G. La ministre a donné à croire que le gouvernement vaudois avait décrété un moratoire sur la construction de ses antennes. Or, il se contente d'attendre les directives techniques au niveau suisse avant de les autoriser.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine est un astronaute.
Oui, David de Saint-Jacques, il séjourne dans la Station spatiale internationale depuis la fin de l'année dernière et cette semaine, il a effectué sa première sortie dans l'espace. David Saint-Jacques a effectué des tâches d'entretien, entre autres, c'était la 216e sortie depuis la création de la Station spatiale internationale et la première d'un astronaute canadien depuis 2007.
La Belgique, à nouveau pointée du doigt, à cause donc de la surpopulation dans ses prisons, Nathalie De Vic.
Une surpopulation synonyme de hausse des violences carcérales et en conséquence d'absentéisme grandissant chez les agents pénitentiaires, privant en conséquence encore des détenus déjà à cran de leurs droits fondamentaux tels que préaux, visites, activités. Une situation devenue intenable, comme l'explique Marc Brizy, directeur d'une prison en Wallonie qui compte aujourd'hui 42% de détenus en trop.
Ça cause évidemment des problèmes au quotidien. Pour les détenus, évidemment, le désagrément d'être en cellule avec des personnes qui n'ont pas nécessairement choisi. Et pour nos agents aussi, ça fait un surcroît de travail, bien entendu. Ça fait des mouvements d'une plus grande ampleur, qui prennent plus de temps, avec beaucoup plus de nervosité, et ça multiplie les incidents.
Les promesses faites par le gouvernement pour y remédier, il y a 3 ans, suite à 2 mois de grève des gardiens de la plupart de nos prisons, n'ont pas été tenues. Pourtant, plusieurs pistes ont été mises sur la table, inspirées de nos voisins hollandais et allemands, mais rien n'a abouti. Un manque criant de courage politique, estime Jean-Pierre Beuille, président de l'Ordre des avocats, qui a décidé d'attaquer l'État fédéral pour manque de moyens et délai déraisonnable.
Les auteurs, les experts que le ministre de la Justice avait choisi pour réformer le code pénal étaient venus avec une vraie réflexion des modes alternatifs, c'est-à-dire les bracelets électroniques, les transactions pénales, les peines de travail, etc. Et le gouvernement n'a pas suivi l'avis des experts qui ont d'ailleurs démissionné.
L'État belge avait déjà été condamné l'an dernier par le Conseil de l'Europe, cette fois pour sa surpopulation carcérale et le traitement réservé à ses prisonniers. Nous revoilà donc, pointés du doigt, trop de détentions préventives, pas assez de libérations conditionnelles, un sous-investissement chronique depuis trop longtemps dans l'ensemble du secteur de la justice, qu'il faut de toute urgence refinancer, faute de repartir dans de longs mouvements de grève qui risquent à nouveau de faire très mal.
Plus de cambriolages en France et plus de vols de voitures. Les chiffres de la délinquance sont en hausse. Plus 9% depuis 5 mois, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur en France. Et c'est un inversement de tendance après un an de baisse des violences. Alors la raison à cela, selon plusieurs syndicats de police, ce sont les nombreuses manifestations des Gilets jaunes qui accapareraient les forces de l'ordre en France depuis 22 semaines. C'est en tout cas ce que pense Philippe Capon, le secrétaire général du syndicat UNSA Police.
On s'aperçoit que cette hausse concerne essentiellement de la petite délinquance, vol de véhicules, vol dans les véhicules, les agressions simples. Donc effectivement, c'est lié aussi à un transfert et à l'absence de membres de force de l'ordre à certains moments de la semaine sur le terrain, qui laisse un peu le champ libre à tous ces délinquants, à cette petite délinquance. Donc on arrive aux limites et à la rupture des missions qui nous incombent et qu'on a actuellement du mal à pouvoir assurer.
Les patrouilles dissuasives seraient donc moins présentes sur la voie publique en France depuis l'apparition des Gilets jaunes il y a 5 mois. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça, répond Christophe Soulez, pour le directeur de l'Observatoire de la délinquance. On ne peut pas lier directement cette hausse de la délinquance au manque d'effectifs policiers accaparés par les Gilets jaunes.
Je ne pense pas que la présence des forces de l'ordre sur la voie publique soit un élément qui permette d'expliquer les fluctuations à la baisse ou à la hausse de la délinquance, qui sont des cycles et qui sont généralement assez déconnectés de tout ce qui est présence, de tout ce qui est évolution des effectifs sur le terrain. Donc les causes sont multiples, il n'y a pas qu'une seule explication.
Voilà, et pour rappel, au plus fort des manifestations des Gilets jaunes en France, 80 000 policiers avaient été mobilisés le week-end. Au Canada, les électeurs de la province de l'Alberta sont donc appelés aux urnes la semaine prochaine. Cette élection provinciale est suivie un peu partout au Canada, compte tenu des enjeux qui sont en cause. Benoît Audet, il semble d'ailleurs que les Albertains s'apprêtent à voter pour le changement.
Oui, c'est du moins ce que tous les sondages démontrent depuis des mois. Les conservateurs menés par l'ancien ministre fédéral Jason Kenney sont largement en avance sur les néo-démocrates de Rachel Notley. Celle qui est actuellement première ministre de ce parti plus à gauche avait causé toute une surprise il y a 4 ans en chassant les conservateurs du pouvoir, eux qui dirigeaient la province depuis des décennies. Mais Rachel Notley aura fort à faire cette fois-ci pour répéter son exploit.
Et c'est l'économie qui serait la principale épine au pied de la première ministre.
Oui, l'économie albertaine, très dépendante du pétrole, est au ralenti depuis des années en raison de la chute des prix. Les conservateurs accusent Rachel Notley de n'avoir rien fait pour faire avancer les projets de pipeline qui permettraient de développer de nouveaux marchés pour le pétrole albertain.
Et le résultat de ces élections est donc très surveillé de près par Ottawa?
Oui, le gouvernement albertain actuel est vu comme un allié des libéraux de Justin Trudeau, même s'il y a eu des frictions au cours des derniers mois. L'élection d'un gouvernement conservateur ne serait pas une bonne nouvelle pour le premier ministre canadien qui a déjà perdu des alliés dans 2 provinces au cours de la dernière année.
En République démocratique du Congo, Joseph Kabila n'est certes plus président, mais il garde son emprise, Charlotte Hydrac.
Oui, encore une victoire électorale des partisans de l'ancien chef d'État cette semaine aux élections des gouverneurs qui ont un pouvoir important dans le pays. La coalition pro-Kabila a remporté la majorité. Elle avait déjà fait une razzia à l'Assemblée, au Sénat et dans les assemblées provinciales. À chaque nouveau scrutin, l'étau se resserre encore un peu plus sur le président Félix Tshisekedi.
Et le nouveau chef de l'État qui semble donc encerclé.
Sa marge de manœuvre est très très étroite. 3 mois après son élection, mise en doute, on le rappelle, par la puissante église congolaise entre autres, l'ancien opposant n'a toujours pas nommé de premier ministre, mais l'écrasante majorité parlementaire des pro-Kabila devrait peser lourdement sur le choix du nouveau chef de gouvernement et de son équipe.
Et conclusion de tout ça, les militants, ils sont désorientés.
Oui, leur champion a remporté la présidentielle, mais a perdu tout le reste. Les grands électeurs sont pointés du doigt.
Tout le monde sait ce qui se passe autour des élections ou ce qui s'est passé. Il y a corruption, mais on ne veut pas le dire. Tout le monde s'en cache. Comment est-ce que une classe politique rejetée gagne des élections à tous les échelons?
L'ombre d'un ancien président qui pèse et un président élu fragilisé, c'est à l'étranger avec de multiples voyages, États-Unis, Angola, Kenya, Rwanda, Ouganda, que Félix Tshisekedi est allé chercher des soutiens ces dernières semaines.
Les juges fédéraux helvétiques ont annulé cette semaine le résultat d'une votation populaire et c'est une première dans l'histoire de la Confédération, Pierre Anchoffat.
C'est vrai, des juges contraints d'invalider une décision du peuple souverain, l'image de la démocratie suisse en a pris un coup. Oh, bien sûr, des décisions de justice ont déjà annulé ici ou là un scrutin local ou régional pour des irrégularités. Mais là, c'est le plus haut niveau de l'État qui est en cause.
Et justement, Pierre-Anne, qu'est-ce qui a motivé la décision du tribunal fédéral?
Mais les termes sont assez durs à l'égard du gouvernement et de son administration. Une violation crasse, choquante, ont dit les juges. La votation portait sur la discrimination fiscale des personnes mariées et la brochure d'information du Conseil fédéral parlait de 80 000 couples concernés. Or, il a dû reconnaître, après le refus de justesse de cette initiative, qu'ils étaient en réalité plus de 450 000, plus de 5 fois plus. Une erreur impardonnable qui ne restera pas sans conséquence, selon le constitutionnaliste Étienne Grisel.
Et ça aura de l'influence, certainement, sur l'administration fédérale, qui devra faire un peu plus attention lorsqu'elle donnera des chiffres. Et ici, il ne s'agit pas d'une erreur de prédiction, ce sont des chiffres prouvés qui se sont trouvés être faux.
De là à empêcher la libre formation de l'opinion, il n'y a qu'un pas que les juges ont donc franchi.
Oui, et que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, légalement, le peuple devrait se prononcer à nouveau, mais l'enjeu est désormais politique, car depuis le scrutin de 2016, la question de la fiscalité des couples mariés a été remise sur le métier. Il est donc peu probable que le peuple doive revoter exactement sur le même texte. C'est au gouvernement, un peu penaud, de rebondir après cette leçon infligée par le pouvoir judiciaire.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.